Objectif Santé, Karen Taïeb.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette situation qui est quand même difficile, on l'a subi tous finalement, cette crise sanitaire qui n'en finit pas et avec son lot de confinement, déconfinement, reconfinement. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans mon émission Objectif Santé Daphna Mouchnik pour son livre. Un livre qui est paru il y a quelques mois déjà, ça s'appelle « Première ligne, journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement ». Un livre paru chez Fauve Éditions, je dis paru il y a quelques mois, mais pas si longtemps que ça. C'était juste après le premier confinement.
Oui, bonjour Karen, merci de votre invitation.
Et donc c'est un livre, finalement, j'ai envie de dire, nous voilà reconfinés. Et vous parlez bien sûr dans ce livre de toutes ces semaines, de ces 9 semaines où vous avez été en première ligne, d'où le titre de votre livre, à faire face à cette gestion de la crise sanitaire du côté des aides à domicile, c'est-à-dire des personnes qui vont aider d'autres personnes qui sont en perte d'autonomie, souvent des personnes âgées, des personnes handicapées, qui ont besoin de vous au quotidien. On peut d'abord, avant, décrire ce que c'est que ce métier d'aide à domicile, Daphna Mouchnik.
Oui, alors moi je dirige un service d'aide à domicile qui effectivement emploie 160 personnes. J'ai une petite équipe de travailleurs sociaux et surtout une très grande équipe d'auxiliaires de vie aide à domicile qui quotidiennement se rendent au domicile de personnes âgées en perte d'autonomie ou malades ou en situation de handicap pour les aider à réaliser les gestes essentiels de la vie quotidienne. Se lever, se laver, s'habiller, préparer un repas, faire ses courses, prendre un repas, se redéshabiller, se coucher. Mmh. Tous les gestes qu'on fait finalement sans y penser, et ben là, bien souvent, les personnes que nous accompagnons ont besoin de nous pour le faire.
Et c'est dire, si vous n'êtes pas là au rendez-vous quotidien, ce rendez-vous essentiel, on parle beaucoup des produits essentiels en ce moment, ce rendez-vous essentiel, comme vous dites, se lever pour aller aux toilettes, faire sa toilette, manger, c'est essentiel. Et puis aussi, le lien social que vous apportez, parce que souvent ce sont des personnes seules, on comprend bien que ces aides à domicile font partie, à un moment donné, de la vie de la personne elle-même.
Elles font complètement partie de la vie des gens. Parfois, elles sont même la seule personne qu'elles voient dans leur journée. Et quand les gens ont la chance d'avoir une famille, j'ai envie de dire que malheureusement, pendant cette période de confinement, tout le monde était coincé chez soi. Et on avait d'autant plus besoin de la présence de l'auxiliaire de vie. Là où elle est indispensable toute l'année, elle était vitale durant cette période-là.
Alors justement, dans votre livre, Première ligne, Daphna Mouchnik, durant cette période de confinement, ça a été beaucoup plus difficile que d'habitude, pour plein de raisons. D'abord, parce qu'il fallait aller en métro, il fallait aller se rendre chez ces personnes. On nous disait à cette époque-là confinement total, c'est-à-dire on ne sort pas de chez soi. Donc comment on fait pour sortir de chez soi, pour aller justement rencontrer et aller travailler chez des personnes qui nous attendent, qui comptent sur vous en fait. Et puis la question des masques, vous en parlez beaucoup dans votre livre. À cette époque, il n'y avait pas de masques. On disait qu'il fallait des masques. Donc tout le monde comprenait bien que pour aller à la rencontre de personnes fragile notamment, et c'est votre public, il fallait des masques et il n'y en avait pas.
Ah oui, alors en fait, je pense qu'on a été les grands oubliés de ce premier confinement et on a eu à affronter, à surmonter des difficultés incroyable. Effectivement, alors on n'a pas complètement été oubliés, c'est-à-dire que le gouvernement avait bien quand même dit qu'on était professionnels indispensables à la gestion de crise, mais on s'est rendu compte à quel point en fait la population ne nous connaissait pas. Et en fait, même quand on avait nos laissez-passer, même quand on disait qu'on était auxiliaire de vie, on mettait un certain temps à expliquer quelle était notre mission aux policiers, qui parfois même ont mis des amendes aux auxiliaires de vie.
Vous le racontez dans votre
livre. On se retrouvait dans des situations pareilles. Certains directeurs d'école qui ne comprenaient pas pourquoi finalement une petite aide ménagère, c'est ça qu'on imagine dans la représentation qu'on se fait de ce métier quand on ne le connaît pas, pourquoi elle a besoin besoin de sortir et pourquoi ses enfants. Voilà. Et nous, on avait besoin des écoles. Mmh. On avait besoin que les enseignants prennent les enfants de notre personnel pour qu'ils puissent s'en rendre auprès des gens. Donc, on s'est rendu compte de ça. Effectivement, on n'avait pas de masque, mais personne n'avait de masque. De toute façon, on nous expliquait qu'il n'y avait pas besoin de masque. Ouais, c'est quand même fou aujourd'hui.
C'était une période...
Et donc, voilà. il a fallu batailler sur tout. Ouais. Et on a... ça n'a été que de la débrouille, en fait. Solidarité.
Juste avant d'aller un peu plus loin, parce que c'est vrai que ce livre le raconte formidablement bien et on va bien sûr y revenir. J'ai bien aimé cette phrase au début du livre quand vous dites « Nous sommes les invisibles et pour nous voir vraiment, il faudrait que l'on soit absent ».
Eh bien oui, parce que en fait...
C'est ruer dans les brancards en disant ça. C'est peut-être dire qu'attention, vous ne nous voyez pas, vous ne nous considérez pas finalement, faisant partie d'un personnel essentiel à la vie de ces personnes en perte d'autonomie. Donc, pour nous voir, il faudrait peut-être qu'on s'absente. Et là, peut-être que vous allez remarquer qu'on est utile et nécessaire.
Mais si on n'avait pas été là, si les services d'aide à domicile avaient fermé leurs portes en disant tout le monde chez soi, c'est des centaines de milliers de personnes qui auraient été hospitalisées dans l'urgence. On a été la digue de l'hôpital. Donc, évidemment, si on n'avait pas été là, on nous aurait vus, on aurait compris notre utilité. On se serait dit, mais qu'est-ce qui marche différemment cette fois-ci que le reste de l'année?
Est-ce qu'il y a eu des personnes... justement, qui sont épaulés par votre équipe de 160 aides à domicile, qui ont été malades du Covid, qui ont dû être hospitalisés, puisque c'est un public très fragile, finalement, qui rentre dans les fameuses cases de personnes pour lesquelles il faut une vigilance énorme.
Eh bien, finalement, lors de ce premier confinement, très peu. Mmh. Très peu, parce que c'est des gens qui ne sortent pas, qui ont peu de visites. Mmh. Et finalement, les personnes qui pouvaient les mettre en danger, c'était notre équipe, c'était nous, c'était nos visites. C'était ça le paradoxe. Donc,
d'ailleurs, dans votre livre, vous le racontez, il y a des familles qui vous disaient « ne venez pas chez ma mère parce que vous allez la rendre malade ». Et c'était très difficile de faire comprendre la nécessité de votre présence face à des gens qui avaient à la fois peur et qui, en plus, vous renvoyaient un discours pas très sympathique, il faut le dire.
Oui, mais en même temps, le côté pas très sympathique, c'était pas grave. En fait, les gens protégeaient les personnes qu'ils aiment et c'est tant mieux. Nous, notre souci, ça a été qu'il y a eu des gens qui ont complètement suspendu nos visites et nos interventions et on ne savait pas en réalité s'il y avait un vrai relais. Et ça a été une grosse angoisse. Et au bout de 8-10 jours, on a organisé... alors là, ça a été vraiment... l'aide de toutes les bonnes volontés, on a quand même vu, quand même, il y avait un élan comme ça de solidarité de la part de toute la population. Et donc, il y a des gens qui nous ont dit comment on peut vous aider. Et du coup, on leur a demandé d'appeler les personnes chez qui on n'allait plus. C'était plus de 300 personnes chez qui on n'allait plus pour s'assurer que tout allait bien. Et donc, on s'est retrouvés, là encore, dans l'urgence, à remettre en place des interventions parce qu'on se rendait compte qu'il n'y avait plus rien à manger, que la personne était trop seule. Ou alors, et ça, c'est Jérôme Gadge qui le souligne très, très bien dans le rapport qu'il a remis sur les dangers de l'isolement.
Et la dénutrition, souvent, des personnes âgées.
Oui, alors là, on arrive bientôt dans la semaine de dénutrition aussi. On a tellement de sujets. Mais là, c'était vraiment l'idée du lien. Mm-hmm. D'un seul coup, des gens n'avaient plus aucun lien, étaient isolés chez eux. Et donc, ces bénévoles ont aussi permis de continuer à parler et à créer, à entretenir une relation.
Quand on lit votre livre, alors qu'on parle partout de gestes barrières, vous proposez des gestes de solidarité. Et je crois que l'un n'est pas incompatible avec l'autre, mais sans ces gestes de solidarité, tout peut s'effondrer aussi.
Là, je pense qu'on en a fait la parfaite démonstration. On a besoin les uns des autres pour vivre et pour que cette existence ait du sens.
C'est ça, tout à fait. Dans votre livre, donc là, vous dites, on le voit, et on peut parler d'ailleurs du style, ce livre que vous avez écrit très rapidement, presque comme s'il y avait une urgence à raconter quelque chose. Moi, j'ai envie de vous dire, Daphna Mouchi, que je connais d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, que je connais depuis qu'elle est toute petite, puisque c'est la fille de notre très chère et regrettée Elvire. Vous dire que finalement, ce livre, c'est un livre témoignage, c'est un livre historique. Est-ce que vous vous en rendez compte? Parce que ça raconte finalement quoi? Ça raconte une guerre, c'est cette guerre que l'on mène contre ce coronavirus. Et puis, ces bataillons, vous faites partie finalement de ces combattants, vous faites partie finalement de ces petits groupes qui, dans les tranchées, finalement, vous vous battez pour être aux côtés de ceux des plus fragiles, finalement, d'entre nous.
Alors, je ne sais pas ce qu'en feront nos historiens quelques dizaines d'années. Moi, effectivement, il y avait urgence à témoigner parce qu'il y avait beaucoup de silence autour de ces auxiliaires de vie. Elles ont été travaillées la peur au ventre. On a bricolé comme on a pu. On a laissé tomber personne. Et finalement, dans le silence absolu. Donc, en fait, effectivement, ça a été comme ça, une espèce de pulsion comme ça, viscérale, où j'ai écrit ce livre sur une dizaine de jours et je devais le remettre à l'éditeur à la sortie même du confinement.
Vous aviez déjà écrit un livre qui s'appelle « Derrière vos portes ».
Oui, j'avais pris beaucoup plus de temps.
Mais qui racontait déjà cette profession méconnue et en même temps, mais là, il y avait cette urgence à raconter une souffrance aussi au travail, une souffrance pour dire on veut être là, on veut participer à cette solidarité, mais parfois il faut des bouts de ficelle pour y arriver. Et non pas, vous avez plutôt utilisé souvent des bouts de ficelle plus que des vrais moyens.
Oui, et encore, moi je mesure que j'étais à Paris et que finalement très très vite, la mairie de Paris nous est venue en aide, très vite par rapport à d'autres, parce que je préside une fédération d'aide à domicile qui s'appelle le CINERPA Domicile, et donc j'ai pu avoir vraiment comme ça l'expérience et le vécu de tous les services en France.
Et puis, il faut dire que vous avez une belle personnalité, vous lâchez pas aussi. C'est oui, important.
Oui, c'est vrai que j'ai une sacrée ténacité.
il en faut pour ne pas que ce soit, je ne sais pas ce que vous le dites souvent dans votre livre, que c'était un secteur oublié. Là, je pense que personne ne peut plus l'oublier maintenant.
On nous a vite oublié. Hein. Regardez, là, on est en pleine seconde vague. Mmh. Et puis finalement, les dotations masques qui nous avaient été octroyées par le gouvernement pendant le premier confinement, avec vraiment, là encore, des difficultés pour que ça arrive jusqu'à nous, ils se sont arrêtés au 30 septembre. Et là, plus de masques pris en charge pour les auxiliaires de vie.
Et donc là, vous faites comment du coup ?
Alors là encore, moi, c'est Paris qui est venu à mon secours. Il y a aussi le FSJU qui s'est porté comme ça à la rescousse. Mais moi, ce que je veux, c'est que pour tous les services d'aide à domicile de France, ces masques, ce matériel de protection, ils soient pris en charge et que ça ne repose pas sur déjà une économie fragile de nos services. On est vraiment dans le secteur médico-social et avec une grande fragilité économique. Et d'ailleurs, cette fragilité économique, elle est passée, je ne vous dis même pas, en second plan. On n'a pas pensé, on a déployé une énergie, on a dépensé de l'argent, on a payé des heures sup, on a... Voilà,
vous avez payé des hôtels, des voitures, des taxis pour que les auxiliaires, les aides à domicile puissent se rendre chez ces personnes.
Oui, on a dépensé sans compter. On s'est dit, on était là, on s'est dit, on est là pour sauver et soutenir la population. On était très fiers de ce qu'on était en train de réaliser. On l'est toujours. Hein. Ouais. Mais pourquoi ne pas nous aider plus dans les missions qui sont les nôtres ? Et ce livre, je l'ai aussi écrit pour me retrouver en face de vous, Karen, en fait. Pour me dire que, pas du tout pour en faire la promotion, mais pour du coup qu'il soit un prétexte à faire la promotion de ces professionnels et de leurs services.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai vu que vous faites le tour des radios, des télés, en tout cas peut-être pas encore suffisamment pour que ce soit très largement écouté, mais c'est vrai que cette émission, comme la nôtre, Objectif Santé, même si on n'a pas l'impression qu'on parle de santé, on parle de cette façon d'être à l'autre, et ces personnes-là, comme on l'a dit, ça fait partie de leur santé mentale, mais santé tout court, bien manger, avoir une hygiène de vie au quotidien. Vous faites partie de cette santé dont on a besoin au quotidien.
On fait partie de cette grande famille des professions qui prennent soin. Ouais. On est on prend soin, et donc dans le prendre soin, et effectivement, on entend qu'on soigne.
Ouais. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle ça en anglais le care, mais c'est vrai que le soin qu'on apporte et fait partie évidemment de la bonne santé. D'ailleurs, dans votre livre, d'abord vous décrivez votre équipe. Je sais que vous aimez beaucoup tous les membres de votre équipe. Ils ont chacun et chacune un prénom. Ils ne sont pas des anonymes. Et vous leur rendez à chaque fois hommage parce que ce sont des gens, comme vous dites, qui se lèvent à 5 heures du matin pour certains, parce qu'ils habitent très loin, pour arriver à leur travail à 9 heures et qui ont dû gérer tout un tas de choses. Pas de masque, pas de gel, pas de gants. Tout ça, en fait, c'était pas prévu au programme, finalement. C'est arrivé comme un boomerang, sauf que maintenant, on est en deuxième confinement et vous me dites que c'est toujours pas... La réserve, elle n'y est pas là.
Oui, c'est très étonnant. Alors, on n'est pas tout à fait comme la première fois parce que nous, on a gagné tous les services d'aide à domicile et tous les professionnels ont gagné en expérience. On a moins peur. Ce qui fait moins peur aussi, c'est que tout le monde travaille. Il faut imaginer que la première fois, on était seul. On était seul dans les rues de Paris. Et en fait, on ne savait pas du tout.
Silence pesant, plus que dans ce confinement bis.
Moi, ce qui me terrifiait le plus, c'était de me dire que peut-être une auxiliaire de vie qui allait travailler allait peut-être en mourir et que j'allais peut-être participer à ce drame-là. Je trouve qu'on nous a fait porter des choses très 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 lourdes. Je me rappelle, je le raconte dans l'histoire, dans le livre de Bernadette, une auxiliaire de vie qui travaillait avec moi. Elle avait pas de masque, elle avait pas de visière et elle allait chez un monsieur. On savait pas s'il était malade ou pas. Et il fallait qu'elle le fasse manger et ce monsieur toussait et lui toussait dessus. Et je lui dis mais comment on peut éviter qu'il vous... Elle me dit mais il y a pas de solution pour qu'il me tousse pas dessus. Alors par chance ce monsieur n'avait pas le Covid et on a évité un drame.
D'ailleurs, dans votre livre, vous le dites très bien, vous le décrivez, que comment gérer finalement cette distanciation physique dont on nous parle et qui est essentielle, nécessaire, dans un métier où on doit être proche des gens. Donc, c'est très difficile de trouver un compromis quand on doit nourrir, laver. Donc, on est vraiment dans la promiscuité avec les gens et non pas dans la distanciation, du coup.
Oui, et puis il faut imaginer, on est chez des gens qui entendent mal, qui voient mal, donc le toucher est quelque chose de tellement important pour rassurer, pour apaiser. Donc effectivement, on est de toute façon sans arrêt. Déjà dans hors période de crise sanitaire, mais alors encore plus maintenant, dans des injonctions contradictoires, un peu comme dans le film Hors Normes, en fait, quand je l'ai vu.
C'est tout à fait ça. C'est toute cette chaîne de solidarité qui finalement se ressemble à plus d'un titre pour plein de raisons, et notamment celle que vous décrivez dans votre livre. On va se retrouver dans un petit instant, après une petite pause musique. On est aujourd'hui avec mon invitée Daphna Mouchnik pour son livre « Première ligne ». Journal d'un service d'aide à domicile durant le confinement et peut-être même, ça pourrait aller même dans ce reconfinement en espérant qu'on a fait des progrès depuis et on se retrouve juste après cette petite pause.
לבכות לך תהיה חזק למעלה געגועי כמו דלתות שנפתחות בלילה לנצח אחי אזכור אותך תמיד וניפגש בסוף אתה חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך המשנה כשעצובים הולכים לים לכן הים עלוע וזה עצוב שלהחזיר ציוד אפשר לא דעת לנצח אחי אזכור אותך תמיד וניפגש בסוף אתה יודע ויש לי חברים אבל גם הם קווים אל מול אורך ומשגע וכמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח אל החיים וכמו הגלים אנחנו מתנפצים אל המזח אל החיים אני הולך לבכות לך תהיה חזק
à Aviv Geffen à l'instant sur RCJ. Et on pense évidemment en ce 4 novembre, 25 ans après 1995, l'assassinat de Yitzhak Rabin. C'était sur la place des rois d'Israël aujourd'hui qui porte son nom à Tel Aviv. Et voilà, on est en pensée avec sa famille. Et voilà, donc c'est évidemment un jour très particulier, ce 4 novembre, dont on se souvient évidemment d'Yitzhak Rabin aujourd'hui. Daphna Mouchnik, donc, qui est mon invitée dans Objectif Santé pour son livre Première Ligne. On parle avec vous de ces aides à domicile durant le confinement et hors confinement, parce que comme on l'a bien compris dans votre livre, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il y ait des métros ou pas, qu'il y ait la grève ou pas, vous devez y être, vous devez être au chevet, au rendez-vous avec ces personnes qui ont besoin de vous au quotidien pour des gestes qui ont l'air anodins et qui sont pourtant les gestes essentiels de la vie de tous les jours.
Oui, impossible de manquer le rendez-vous. On a commencé ce premier confinement, on était déjà bien éprouvés. On pensait avoir traversé quelque chose déjà de très très difficile parce qu'il y avait eu les grèves de décembre et janvier terribles où les auxiliaires de vie avaient marché 2 heures, 3 heures pour arriver à leur travail. Et puis après, il faut imaginer qu'elles changent de maison. Tout au long de la journée, d'appartement tout au long de la journée. Donc là encore, elles avaient beaucoup marché.
Et on leur dit, 12 mars, plus d'école pour les enfants. Et là, vous faites appel voilà, au bénévolat interfamilial, intrafamilial, à la petite Lia, bon, maintenant qui a une petite jeune fille, on va dire. Et vous lui dites, bah, tiens, puisque tu n'as pas école, est-ce que tu ne peux pas demander à toutes tes copines de venir garder les enfants des aides à domicile pour qu'elle puisse travailler. Donc c'était voilà.
Oui, alors c'est ça. Je rentre chez moi, je retrouve ma fille le sourire jusqu'aux oreilles parce qu'il y avait plus de lycée. Moi, alors à ce moment-là, on n'était pas dans le confinement, on avait juste annoncé la fermeture des écoles et moi j'étais décomposée parce que je me disais mais comment on va faire, parce que c'est énormément de femmes qui travaillent avec moi, ce secteur il est porté par les femmes et beaucoup de mamans. Et du coup, je dis à Lia, bah tu peux me donner un coup de main, appelle des copines, on va voir comment on peut garder les enfants de ses auxiliaires. Bon, et finalement, ça n'a pas été nécessaire parce que les écoles étaient ouvertes pour
les personnels soignants et notamment les personnes de soins, les personnels de soins, comme on l'a dit tout à l'heure. Et pour vous, d'ailleurs, ça a été une forme de reconnaissance, finalement, que ces écoles soient ouvertes au personnel aux aides à domicile. Alors, si nous, c'était pas naturel, finalement.
Oui, mais c'était la première fois qu'on se voyait comme ça, indispensable à la gestion de la crise. On s'est dit, mais ça y est, ils ont compris qui on était, tout va changer après. Alors, il faut qu'on assure, qu'on lâche personne. Et puis, il y aura d'autres lendemains plus faciles, parce que les conditions de travail d'un service d'aide à domicile et de ses équipes, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, indépendamment de la crise sanitaire.
Dans votre livre, il y a à la fois ce que vous racontez du quotidien, des difficultés rencontrées pour vraiment vous battre pour résoudre des problèmes essentiels. Et il y a aussi ce lien, comme je disais, avec les équipes. Et il y a beaucoup de copies de mails, finalement, envoyées. Il y en a un où vous dites « je vous embrasse à l'équipe ». Et après, vous dites « mais finalement, d'habitude, je leur dis bien à vous ». Et là, il y a « je vous embrasse ». Qu'est-ce qui fait que de cette équipe de travail, il y a une autre relation qui se crée, parce qu'il y a cette urgence, il y a cette urgence vitale qui fait qu'il y a plus d'humanité encore qu'il y en avait déjà ?
Alors, le mail a été la solution pour nous d'envoyer les informations immédiatement à l'ensemble des auxiliaires de vie qui pouvaient encore travailler. Parce que sur une équipe de 160, on s'est retrouvés les premiers jours avec 90 salariés. Ça a été hyper compliqué. Donc du coup, ces 90 salariés avaient une charge de travail
incroyable. Parce qu'il fallait quand même aller voir tout le monde.
Il fallait aller voir tout le monde. En tout cas, tous ceux qui n'avaient pas d'autres relais possibles. Et d'ailleurs, on pense aux auxiliaires de vie, mais l'équipe au bureau avec moi a passé des heures et des heures à refaire ses emplois du temps, à rappeler les gens, à réexpliquer aux auxiliaires de vie qui allaient être ces personnes qu'elles ne connaissaient pas encore. Donc voilà, tout le monde...
Et même pour les personnes qui reçoivent des nouvelles aides à domicile, c'est difficile de changer
bien
de personne.
Sûr,
il y a une habitude qui se crée.
Bien sûr, c'est très difficile de faire confiance. voilà, quelqu'un qu'on connaît pas dans son intimité, il se crée un lien généralement très joli et très fort entre l'auxiliaire de vie et la personne qu'elle accompagne, et du coup un remplacement est toujours très 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 mal vécu. Alors là, c'était le summum, et effectivement on vivait des choses tellement fortes, donc moi je leur envoyais peut-être parfois 2 mails par jour. Je me disais, le bien à vous, s'il n'a pas sa place là. Donc je leur disais, force et courage, je vous embrasse, on est là, on pense à vous. Si j'avais pu toutes les serrer dans mes bras, geste barrière ou pas. Voilà, j'avais tellement envie qu'elles se sentent soutenues et accompagnées elles aussi, et leur exprimer la reconnaissance, ma reconnaissance, mais aussi la reconnaissance de la population. Parce que personne, finalement, on n'avait même pas l'impression qu'on applaudissait pour nous à 20h. Et voilà, et il y avait les discours du président, tout ça, personne ne parlait d'elles. Donc moi, je me disais, il faut que je fasse le contrepoint.
Donc maintenant, voilà, vous penserez, quand vous applaudirez, les soignants et toutes celles et tous ceux qui contribuent à la continuité finalement de cette vie dans les conditions difficiles. Ben, on pensera aux aides à domicile et aux auxiliaires de vie. D'ailleurs, d'un mot, Daphna Mouchnik, la différence entre aide à domicile et auxiliaire de vie, c'est quoi ?
Bon, écoutez, en vrai, il n'y en a pas vraiment. Ouais. L'auxiliaire de vie, elle est diplômée, et l'aide à domicile, elle fait... j'ai envie de dire malheureusement la même chose, malheureusement parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens diplômés, qu'on a un secteur qui souffre de manque d'attractivité, tous les métiers du grand âge en général, mais en particulier le secteur du domicile. Et donc du coup, on se retrouve à, nous les services, à embaucher des gens qui n'ont pas les qualifications, les qualités, pas les qualifications, et à les former et à les accompagner pour en faire de véritables professionnels du secteur.
Et donc en fait, en général, les aides à domicile peuvent avoir des formations tout au long de leur travail, ou j'imagine qu'elles n'ont pas tellement le temps.
Alors là, il y a eu une réforme de la formation qui a fait que le peu de moyens dont on disposait encore, on les a plus pour former les gens. D'accord. Donc là, il y a vraiment quelque chose à repenser. Et effectivement, ce qui est hyper compliqué, c'est que comme on manque de personnel, bah, à chaque fois qu'on met en place des formations, on se crée un nombre de complications pour les remplacer avec des gens qu'on n'a pas. Voilà. Mais on le fait quand même parce que c'est une pensée à long terme. Il faut absolument accompagner ces hommes et ces femmes, surtout ces femmes, dans cette formation. Et du coup, il y a des parcours professionnels fantastiques de gens qui sont rentrés dans mon équipe ou dans d'autres sans diplôme, qui ont obtenu via la VAE, la validation d'acquis d'expérience, leur diplôme d'auxiliaire de vie sociale.
Et qui peuvent avoir finalement un salaire supplémentaire.
Oui, du coup, c'est un peu mieux rémunéré dans la convention collective. Et puis après, qui du coup gagnent comme ça en assurance et ne s'arrêtent pas là. Parfois, elles deviennent aides-soignantes. Et puis, j'ai vu des beaux parcours de personnes qui devenaient ou infirmières ou même travailleurs sociales.
C'est évidemment des beaux parcours à encourager. On a besoin de plus en plus dans cette société où on voit que on parle, comme on le disait tout à l'heure, de ces gestes barrières, de ces gestes. On a besoin de ces gestes solidaires. On a besoin justement de cette de ce vivier de personnes qui est prête à donner à l'autre. Parce que il faut une sacrée dose de générosité pour faire ce métier.
Oui, et c'est ce qui me fait d'autant plus mal au cœur que chez ces personnes qui ont tant de générosité en elles, on leur demande autant d'abnégation. C'est pas juste. Elles devraient. Non, mais c'est pas juste. Elles devraient.
Prenez la parole pour elles, Daphna.
Elles devraient être payées à hauteur de ce qu'elles donnent. On se retrouve. Le président l'avait dit, et c'est Myriam El Khomri dans sa préface qui le souligne. Il a dit que le pays tout entier reposait sur des hommes et des femmes que l'économie reconnaissait si mal. Et c'est vrai que si tous ces métiers étaient payés à hauteur de leur utilité sociale, alors ce serait certainement les mieux payés de France.
Oui, si on devait les payer effectivement en fonction du service rendu, c'est sûr que ce serait le cas. Service d'aide et d'accompagnement à domicile, les SAAD, c'est en fait... ça regroupe quoi exactement, en fait, comme...
Oui, c'est vrai qu'il y a une confusion. En fait, il y a une grande famille qui a été un peu créée en 2005 par Borloo, qui s'appelle les services à la personne. Nous, on est dans cette grande famille-là. mais on n'est quand même pas tout à fait pareil. Parce que, là, donc cette grande famille, c'est tout ce qui va être l'aide à domicile chez le particulier, donc le soutien scolaire, le ménage chez les actifs, le jardinage, leur passage. Voilà. Et dans cette grande famille, il y a quelque chose de plus petit et qui est à cheval entre le médico-social et le quotidien des gens, qui est l'aide à domicile. En fait, c'est confondre les SAD, les services d'aide et d'accompagnement à domicile, avec les SAP, les services à la personne, c'est comme confondre un EHPAD avec un hôtel. Vous voyez, il y a plein de choses qui sont similaires, mais quand même, c'est pas tout à fait pareil.
Un mot sur l'APA, parce que je sais que voilà, c'est quand même quelque chose qui permet à des personnes... C'est pas sous condition de ressources, donc tout le monde a le droit à cette autonomie, à cette allocation d'autonomie personnalisée. Donc est-ce que vous êtes en lien avec l'APA, et comment ça se passe, qui fait appel à vous?
Alors,
est-ce que ce sont les particuliers directement, ou est-ce que c'est d'autres services départementaux?
La particularité du service que je dirige, c'est quand même d'avoir été repérée comme étant une entreprise à vocation sociale. Et effectivement, je travaille énormément avec les assistantes sociales du département, que ce soit via l'équipe médico-sociale de l'APA, mais aussi les assistantes sociales des hôpitaux. On bosse aussi avec les petits frères des pauvres, avec le CASIP, avec Passerelle. Enfin voilà, c'est surtout eux qui nous confient les gens. L'APA a le mérite d'avoir solvabilisé l'intervention de services comme le mien depuis 2001. La difficulté, c'est que ce mode de financement à l'heure ne correspond pas à la réalité des services. Il prend en compte le temps de présence d'une auxiliaire de vie à domicile quand on est chez une vieille dame ou un vieux monsieur, mais il prend pas en compte tout le travail en coulisses de toutes ces personnes, qui organisation, le planning, la transmission, la coordination. Il n'y a pas d'heure de prévue pour les réunions d'auxiliaires de vie, pour le temps qu'elles passent aussi à parler avec leurs responsables de secteur, etc., etc. Donc là, en fait, on attend beaucoup de cette réforme et de la loi grand âge et autonomie qui doit solutionner tous ces points-là pour qu'on puisse enfin travailler sans avoir à bricoler.
On a bien compris votre combat, Daphna Mouchetique, sur tous ces métiers de la solidarité. Et le combat n'est pas terminé, mais on peut vous faire confiance. En tout cas, dans le dernière page du livre, vous dites « On est le 7 mai », donc c'était fin du confinement. Normalement, tout doit reprendre le 11, mais pour nous, rien n'est terminé.
Mais oui, parce qu'en fait, on se doutait bien que ça n'allait pas être simple. On redoutait même le retour des gens dans les transports. On savait que les choses allaient... alors, on n'imaginait pas qu'on allait de nouveau être confinés maintenant, hein, ça c'est sûr. Mais on était dans le prolongement de nos difficultés. Regardez, on est sortis de ce premier confinement. Et on avait déjà peur de la canicule. Ouais. C'est-à-dire que c'est
sans fin.
C'est sans fin.
Et là, quelles sont vos craintes, malgré le fait que vous avez quand même aujourd'hui une expérience de cette gestion de la maladie, et ça a été dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas optimales, mais elles sont quand même moins compliquées que dans le premier confinement d'avril. Voilà, votre état d'esprit pour affronter ce confinement bis.
Mes craintes, c'est que on n'aille pas au bout des promesses données et les conséquences que ça va avoir. On est déjà dans un secteur qui souffre d'un manque d'attractivité. Là, très clairement, on a aussi beaucoup... ça n'a pas été le cas dans mon service pour le moment, et je pense que c'est parce que j'ai été sauvée par Paris qui a accordé une prime aux auxiliaires de vie sur tout son territoire. Mais ailleurs, quand les auxiliaires de vie, après avoir passé ce qu'elles ont passé, ont vu que leurs collègues des EHPAD et de l'hôpital avaient reçu une prime, et pas elles, alors même que parfois elles faisaient même le même travail, parce qu'il y avait des services de soins à domicile, leurs collègues avaient reçu la prime et pas elles. Donc moi, c'est ça que je crains, c'est que finalement on n'est plus assez de personnel et de bonnes personnes, qu'on fasse fuir ces bonnes personnes et qu'on soit plus en mesure d'accompagner correctement les gens.
Merci beaucoup, Daphna Mouchetique, de défendre ce métier essentiel, ce métier d'avenir. Et je rappelle votre livre Première Ligne, paru chez Fauve Éditions. Merci beaucoup.
Merci à vous,
d'être venue dans Objectif Santé. Et bien sûr, je souhaite à tous et à toutes une très bonne santé.